les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone Nouvelle Formule Confinée. Comme chaque semaine, depuis maintenant trois week-ends, nous allons vous faire voyager avec des reportages et des invités. Nous irons à Bruxelles, chez un célèbre brasseur, la brasserie Cantillon, avec le chef étoilé Christophe Hardiquest. Nous serons avec Yann Arthus-Bertrand, qui a mis en ligne gratuitement la version longue de son film Human, une série de témoignages qui renforce l'espoir en la vie. Vous entendrez aussi un reportage avec lui sur le toit de la Grande Arche de la Défense à Paris. L'académicien Dany Laferrière vous emmènera quant à lui dans sa rue préférée de Montréal. Il sera avec nous pour son nouveau livre dessiné qui raconte son exil et celui d'illustres auteurs. Et puis notre séquence qui donne la parole à un éditeur avec le conseil d'un roman classique de sa maison d'édition. Aujourd'hui, rendez-vous avec Manuel Carcassonne des éditions Stock.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires, bien sûr, sont avec nous. Depuis la fermeture des librairies, nous relayons les initiatives de ceux qui gardent le contact avec leurs clients et qui continuent à faire leur métier dans le respect des mesures de précaution sanitaire, bien sûr. Cap sur Puteau, tout de suite, à côté de la Défense à Paris. Bonjour Thomas Auxerre.
Bonjour Emmanuel.
Alors votre librairie Lamandier a ouvert un comptoir trois fois par semaine sur le pas de la porte, un peu comme les restaurants et pizzerias qui font de la vente à emporter.
Bah oui, exactement Emmanuel, on peut voir ça comme ça. Donc ça fait une semaine que j'ai lancé le comptoir devant la librairie. Alors les clients n'ont pas le droit de rentrer, hein, évidemment, ils peuvent pas flâner dans les rayons. Par contre, ils peuvent récupérer leurs commandes qu'ils ont déjà passées sur le site et qu'ils ont déjà payées. Alors attention par contre, ça concerne que les livres que nous avons en stock. Car pour le moment en France, on va dire que les éditeurs et les fournisseurs de livres travaillent peu ou pas. Donc pour l'instant, il faut faire avec ce qu'on a en rayon.
D'accord. Bon, en tout cas, on peut encore avoir des livres grâce à vous du côté de plutôt de la Défense, là, de tout ce quartier d'affaires à l'origine, mais aussi très résidentiel. Et ça marche, il y a du monde ?
Alors déjà, ça fait un peu de chiffre d'affaires. Et puis surtout, le retour des clients, enfin le lien qu'on a avec nos lecteurs, rien que ça, ça met une patate d'enfer. Enfin, ça fait vraiment du bien, quoi.
Et oui, effectivement, il faut garder le lien. Une autre librairie en France fait comme vous, Thomas. C'est la librairie Mose et Compagnie à Carcassonne. Et le libraire sera avec nous la semaine prochaine car il a mis en place aussi une autre initiative avec les commerçants de son secteur pour distribuer des produits locaux et des livres. Et puis si vous, auditeurs, vous voulez aider votre libraire, demandez-lui ce que vous pouvez faire. Gardez-vous aussi le contact, même s'il est fermé et qu'il a décidé de ne rien vendre pendant cette période. Bonjour Katia Courteau.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, Katia, aujourd'hui. Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. La librairie est totalement fermée de votre côté.
Oui, alors la librairie est fermée au public, mais on continue les ventes en ligne. Alors, on a quand même eu beaucoup de commandes des clients. Et on essaie, nous aussi, de garder le contact de cette façon-là. Alors, les distributeurs sont pour la plupart ouverts. Alors, ça nous permet de commander aussi les livres qu'on n'a pas en stock. Mais c'est vrai que le délai est un petit peu plus long. Donc, c'est une autre façon de fonctionner.
Bon, vous limitez un peu les dégâts quand même. Nathalie Clairin est en Belgique, dans la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Comment ça se passe pour vous ?
Nous, malheureusement, on est à l'arrêt. Donc, on attend avec grande impatience le retour de nos lecteurs, qui nous manquent beaucoup. Et on pense à mettre des solutions en place si ça doit se prolonger. Mais pour le moment, les fournisseurs ne nous donnent rien. Et donc, de toute façon, on devra recommencer avec le stock.
D'accord. Bon, la Suisse est représentée par Dominique Bressoux. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Dans la librairie Une Petite Prose à Boudry, vous prenez toujours des commandes. Vous nous en aviez parlé il y a trois semaines.
Oui, ça marche très très bien. Les gens ont vraiment une demande pour commander des livres. Et je les livre à domicile.
Eh oui, en vélo, c'est ça ?
C'est cela.
Bon, si vous êtes libraire et si vous voulez nous parler d'une initiative positive, contactez-nous par le biais des réseaux sociaux Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad. Avant de rejoindre Yann Arthus-Bertrand depuis son lieu de confinement et d'aller avec lui sur le toit de la Grande Arche de la Défense que notre libraire Thomas connaît bien, voici le son de la francophonie, une nouveauté musicale qui est numéro un en ce moment dans un pays francophone. On part en Tunisie, en Algérie et au Maroc aujourd'hui, rien que ça, avec Soul King en duo avec Cheb Mami qui sont numéro 1 partout.
Ça fait des années
des années que les fleurs ont fané. Ça fait des années qu'ils nous ont condamnés.
ماشي غير ديا اللي بيوم شوفي الدنيا دارت عليا سبابي وصغري راح عليا سبابي نيتي هاللي بيوم ما عندي والي انا ناني شي غالي هاد الليلي كتر تهوالي من سباب راحت الدنيا قولي وين تتولي ليا راني في العذاب زادت الكيا مالك ازهر دورت عليا من سباب غابت النيا من سباب غابت النيا وهذه الدنيا دارت عليا
صافي دي زاني كو لي فلور اون فاني
انا مكويني هو يصراني هاكدو انا مكويني
صافي دي زاني كي نوزون كونداني
انا مكويني
Parisien du Nord, Clando d'abord. Active dans la musique sans passeport.
Soul King et Cheb Mami, musique francophone numéro 1 en Algérie, en Tunisie et au Maroc en ce moment. Et bonjour Yann Arthus Bertrand.
Bonjour.
Merci d'être dans cette librairie francophone nouvelle formule confinée. On ne va pas parler du coronavirus tout l'entretien car on en entend déjà beaucoup trop sur le sujet tous les jours dans les médias. Mais vous avez été malade Yann. Comment allez-vous tout d'abord?
Écoute, j'ai une semaine fatiguée où j'ai dormi 15 heures par jour. J'ai maigri de 6 kilos.
Ah oui.
Ce qui est très étonnant, c'était le fait de ne plus avoir de goût ni d'odorat. Je prenais une cuillère de moutarde et je n'avais aucun goût dans la bouche. C'était assez incroyable. Mais c'est revenu, au bout d'une semaine, c'est revenu, et voilà, j'ai repris du poids et tout va bien, il n'y a aucun problème.
Tant mieux. Nous allons entendre dans quelques minutes un entretien, un reportage réalisé cet été avec vous sur le toit de la Défense. Et vous me disiez il y a quelques mois donc qu'il faudrait que l'on change de civilisation. L'espoir pour l'écologie peut-il naître de cette crise sanitaire?
Je crois qu'il faut être assez humble et modeste dans ce qui va se passer. Mais on sent bien quand même qu'il y a une espèce de prise de conscience que notre façon de vivre était un peu compliquée, qu'on voit bien l'histoire des circuits courts, il faut trouver la nourriture à côté de chez nous, le côté aussi l'empathie qu'on a les uns avec les autres. Puis en même temps, ce qui se passe en ce moment, c'était le rêve de tous les écolos. Hein. Il y a pratiquement, puis les avions ne volent plus, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de pollution dans les villes, les animaux sauvages reviennent autour des maisons. Moi, j'ai des cerfs et des biches qui viennent autour de ma maison. Voilà, en même temps, bien sûr que ce n'est pas viable. Et puis surtout, ce qui se passe en ce moment, on va réussir cette année à baisser de 4% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on a signé normalement avec la COP21 pour 2050. Donc, ce virus-là qui nous passe en ce moment, il faudrait pratiquement un virus par an pour qu'on tienne ce qu'on a signé, ce qui est malheureusement impossible. Mmh. Donc ça nous force à respecter les accords de la COP21 et voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus.
Oui, c'est une bonne illustration. Oui. Cela dit, ce serait dramatique qu'on ait un virus chaque année, mais effectivement, ça montre qu'on peut faire quelque chose quand même pour la planète, puisque quand on arrête tout, comme c'est le cas, alors si on limitait, eh bien, il y aurait aussi des répercussions.
Alors c'est pas pour la planète.
C'est la preuve.
C'est pas pour la planète, c'est pour nous.
Ouais.
C'est pour nos enfants et c'est pour la vie sur Terre. La planète, elle va continuer à tourner.
Voilà. Ouais. Wow. Alors justement, le 22 avril, mercredi dernier, c'était la journée mondiale de la Terre. Votre fondation Good Planet a relayé le court-métrage inspiré par Greta Thunberg, Notre maison brûle, qui alerte notamment sur la reprise de l'économie qui risque de s'affranchir des bonnes intentions écolo. C'est ça le risque aussi, la reprise risque d'être dure pour la planète, Yann Arthus Bertrand.
C'est-à-dire qu'on dépend tous de la croissance, on est tous payés par la croissance, donc si la croissance s'arrête, c'est terrorisant. Parce qu'on perd nos emplois et le pouvoir d'achat et les emplois, c'est le graal de tout gouvernement, bien plus que le changement climatique qui va avoir lieu en 2050 ou à la fin du siècle. Donc quelque part, ce qui se passe en ce moment est une vraie réflexion. Je pense que sincèrement, on sera tous un petit peu différents après. C'est ça qui est important. Mmh. Et je ne peux que m'en réjouir, même si malheureusement il y a des décès, même si malheureusement. Et bon, moi, il y a quelque chose que je vis pas très bien. C'est de vivre en étant spectateur de tout ça, sans être acteur, sans pouvoir aider, sans pouvoir faire quelque chose. Je trouve que d'être chez moi, écouter la radio, la télé, de faire quelques interviews, ce n'est pas suffisant par rapport à ce que j'aurais envie de faire. Je ne suis pas acteur du changement en ce moment. Et oui. Bravo à tous les gens qui travaillent.
Vos livres ont un grand succès, Yann Arthus-Bertrand, vos films aussi. Et vous avez décidé d'ailleurs de mettre en ligne gratuitement la version longue de Human, gratuitement sur YouTube. Que vouliez-vous faire passer comme message? Montrer la diversité du monde, montrer les difficultés aussi de chacun, parce que c'est un film assez dur parfois.
D'abord, on a sorti notre film Woman, qui est un film sur les femmes, la semaine avant le confinement, donc tout a été arrêté en vol, donc les cinémas ont fermé.
Oui.
Donc on était tous un peu tristes, et donc on a eu l'idée de mettre en ligne, ce qui n'avait jamais été fait, le film Human, la version de 3h10, et pour moi, Human est vraiment le meilleur film que j'ai fait. Voilà, c'est extraordinaire, tout ce que les gens nous ont donné. Vous savez, c'est un film qui parle, bien sûr qui parle de choses difficiles, mais qui parle aussi du sens de la vie, de l'amour, de la famille, de la mort, de la guerre, des réfugiés, de l'homophobie. Voilà, c'est un peu un raccourci sur le monde entier. Et c'est surtout, je pense, un film qui peut vous faire aimer un peu plus les gens. C'est-à-dire, après ce film, le nombre de gens qui m'ont dit « c'est incroyable ton film ». C'est pas mon film d'ailleurs, c'est le film de tous les gens, c'est les 2000 personnes qui ont ouvert leur cœur. Mais c'est surtout un film qui fait remuer en vous votre humanité qu'on a tous. On est tous en empathie quelque part qui est là au fond des tripes et elle est prête à ressortir. Et ce film parle de ça. Et avec le film, on a mis en ligne aussi le making-of,
oui,
qu'on n'avait pas mis en ligne, et surtout le making-of de la musique. Avec Armand Amar, on a fait un petit film qui explique comment on fait la musique d'un film. Et c'est très touchant, c'est aussi un film un peu sur notre amitié. Voilà.
Bah c'est vrai qu'on se rend compte des inégalités dans ce film. Il y avait un livre aussi paru sous la forme d'un MOOC chez Lamartinière, très réussi, où on voyait la détresse à travers le monde, mais aussi une incroyable envie de vivre, une incroyable tolérance et bienveillance envers la vie, quel que soit le contexte, quel que soit ce que la vie nous apporte ou ce qu'elle nous enlève aussi.
Non, mais Human, c'est un film qui a changé ma vie, parce qu'on ne peut pas travailler pendant 3 ans sur un film pareil en restant le même. C'est très difficile de parler de ce film, je crois qu'il faut le voir, parce que c'est quand même un truc assez particulier. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ce film, mon nom est en groupe comme réalisateur, mais dans un film pareil, on est tous importants. Il y a une équipe de 20 à 30 personnes et on est tous la même importance. Voilà.
Bon, vous avez un livre à nous conseiller, Yann Arthus-Bertrand, rapidement.
Ben oui, oui. J'avais envie de vous parler d'un livre, oui, parce que je reçois tellement de bouquins qui s'empilent sur la table dans ma chambre. Et j'ai ouvert ce livre, c'est « La bergère des collines » de Florence Robert. Et c'est un livre qui m'a sidéré. Alors en ce moment, on est un peu envahi par toutes ces nouvelles qui arrivent du monde entier. Et là, c'est un livre qui ne parle que d'un endroit, des Corbières. C'est une bergère qui raconte sa vie de berger. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. D'ailleurs, j'en ai acheté 10 pour distribuer à mes copains.
Ah oui.
Mais quand j'aime à fond. Moi, oui, mais quand j'aime, j'aime bien lire.
Alors, le titre et l'auteur, s'il vous plaît.
Ça s'appelle Bergère des collines. C'est Florence Robert et c'est des éditions Corti. Non, c'est un livre exceptionnel.
Parfait.
Voilà, que j'ai adoré. Je pense que c'est une grande écrivaine est née. Voilà. Et c'est très, très bien écrit, surtout. Et je voudrais vous lire les derniers mots du livre.
Allez-y.
À l'inverse, si l'art est ce qui donne sa noblesse à la matérialité, je voudrais affirmer que le tout, le troupeau et son ouvrage, est l'objet d'art vivant que je confectionne et sers jour après jour. Voilà, c'est un livre magnifique et qui nous fait réfléchir à l'essentiel, voilà, la nature, le sens de la vie. On vit dans un monde un peu trop matérialisé. Là, on est complètement en dehors de tout ça. Respect en tout cas pour les gens qui nous nourrissent.
Merci pour ce conseil, Yann. Voilà. On va écouter un extrait de cet entretien-reportage réalisé ensemble l'été dernier sur l'Arche, le sommet de l'Arche de la Défense. Vous vous souvenez de ce moment-là ensemble?
C'était un moment incroyable parce que c'est la première fois de ma vie où j'avais, à 74 ans, tout ce que j'avais fait depuis 50 ans sur les murs. Et c'est assez émouvant de voir tous les gens qui m'ont aidé à photographier, les bons moments, quoi. C'est tous une espèce de... C'est émouvant de voir sa vie comme ça défiler, et surtout des moments importants, voilà. Et puis des regrets que j'ai eus, bah, quand je regardais toute cette période du Kenya où j'ai travaillé, où j'étais très heureux, je me suis dit, ben là, tu vois, t'as été très heureux, tu t'en es pas rendu compte, t'as pas assez profité de ces instants de bonheur.
On y va ensemble, il faisait assez beau, assez chaud, nous étions donc au sommet de la Grande Arche de la Défense, et vous allez l'entendre, en ces circonstances particulières, cet entretien va forcément vous faire réagir. Merci beaucoup Yann Arthus-Bertrand, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt, vous aussi.
Au revoir Yann.
Ah, c'est de la musique.
Ah oui.
Le point de vue est magnifique. Et nous sommes au sommet de la Grande Arche avec une soirée en plein air qui se prépare juste à côté de nous. Tout Paris en face, les Champs-Élysées évidemment face à nous. On va descendre quelques marches puisque sur ce toit il y a un vaste lieu d'exposition. Et vous nous accueillez sur le lieu de cette expo, Legacy, l'héritage que nous laissons à nos enfants.
Tout a commencé ici avec le travail sur les lions. Quand j'avais 30 ans, je rêvais d'être scientifique. Et donc je suis parti avec ma femme, Anne, qui a le courage de venir avec moi. On n'avait pas beaucoup d'argent. On est parti au Kenya un peu comme ça, avec tous les quatre, avec deux garçons. Et pendant 3 ans, on a suivi une famille de lions. Et c'est un peu là, en fin de compte, tout a commencé. D'abord, moi, je travaillais en photo, ma femme écrivait, et je pense que c'est les lions qui m'ont appris la photographie.
Oui, c'est ce que vous dites, ça. Parce que vous les avez photographiés tous les jours, quasiment.
Oui, tous les jours, matin et soir, les milliers de photos. Parce qu'en fin de compte, une photo ne raconte pas la même histoire que le texte. Et on peut montrer en photo des choses qu'on ne peut pas voir dans l'écriture, je crois.
Mais vous dites d'ailleurs que les lions sont l'un des symboles de l'écologie et de la protection de la planète. Quand vous aviez 20 ans, Yann Arthus-Bertrand, ils étaient 400 000 en Afrique. Et aujourd'hui, ils ne seraient plus que 20 000.
Oui, mais vous savez, tous les grands animaux sauvages dérangent les gens. Regardez les loups et les ours en France. C'est très difficile de faire cohabiter l'agriculture, des gens qui travaillent au quotidien la terre, souvent avec des petits salaires, peut-être comme un sacrifice quotidien pour nourrir leur famille, et de respecter l'animal sauvage qui est autour de vous, qui vous dérange en fin de compte. Vous savez, quand on parle aujourd'hui de la disparition inévitable des éléphants, c'est incroyable. Ils étaient 20 millions au début du siècle, ils sont aujourd'hui 350 000 et on perdrait chaque année 10% des éléphants. Quand je suis né, on était 2 milliards. Aujourd'hui, on est 1,7 milliard. Voilà. Alors, et notre façon de vivre est en train de détruire la planète, tout simplement.
Alors justement, c'est ce que l'on voit là face à nous, puisqu'il y a ces hommes et ces femmes que vous avez photographiés. On en avait parlé dans une émission ensemble, d'ailleurs, avec ce projet humaniste, finalement, de rencontrer comme cela les citoyens du monde. Et vous dites effectivement que la Terre comptait 2 milliards d'habitants quand vous êtes né. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards et demi. Cela explique... En fait, clairement, les problèmes climatiques, non ? On consomme et on pollue 4 fois plus.
La population du monde a été multipliée par 4 et notre consommation de viande et de poisson a été multipliée par 8. Tout est dit.
Il faudrait changer de civilisation, dites-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire qu'on est, notre civilisation est entièrement basée sur la croissance. C'est la tyrannie de la croissance. La croissance, c'est formidable. Vous savez, d'abord, l'homme vit beaucoup mieux. On vit beaucoup plus vieux. Il y a moins de mortalité infantile. Il y a plus de démocratie. Il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. Le monde va mieux. On est tous beaucoup plus riches. Hein. Mais en même temps, il y a un prix à payer. C'est la perte de la biodiversité. L'homme est en train de consommer la terre, tout simplement. Il faudrait qu'on apprenne à être plus avec moins.
On n'arrête pas de parler du climat, on n'arrête pas d'alerter, tout le monde en parle, tout le monde réagit, mais on ne fait rien. On ne fait rien de significatif, quel que soit le contexte, quelles que soient les canicules qui s'enchaînent, peu importe, on ne fait rien, Yann. Où est-ce qu'on en est là ?
Tu connais mieux la réponse que moi.
Ah oui, non, je suis pas sûr.
Non, mais c'est incroyable qu'on est incapable d'arrêter cette espèce de machine en route qui nous pousse à consommer plus. Regarde la viande, la viande. Chaque année, souvent on me dit, mais qu'est-ce qui a changé depuis 40 ans ? Ce qui a changé, c'est la déforestation. Aujourd'hui, moi je vois des endroits, je vois la déforestation. Chaque année, on déforeste la taille de la Belgique. C'est gigantesque. Chaque année, en forêt primaire, et une forêt primaire, c'est pas une forêt qu'on peut replanter, parce que c'est une forêt qui est bourrée de biodiversité, qui a des milliers d'années, donc on ne refabrique pas une forêt primaire. Uniquement pour nourrir les animaux, en grande partie. Et aujourd'hui, si on a conscience un petit peu de ce qui est en train de se passer, il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Et c'est compliqué, parce qu'il faut permettre aussi aux paysans de se transformer, donc il faut des aides. On a perdu 30% des oiseaux. C'est fou, quoi. Même je le vois chez moi. On a perdu presque 80% des insectes volants. Et on continue comme avant, parce que c'est facile, parce que c'est là, parce qu'on dit, bon, c'est pas grave. Comme personne n'est inquiet, pourquoi est-ce que je serais inquiet, moi ? Et puis, ce que je veux dire, c'est que dans ce monde difficile et compliqué, on me dit, mais quel est l'espoir ? Eh bien, je vais vous dire, l'espoir, il est dans le courage. Le courage qu'on va avoir à changer un peu notre vie. Et aussi le courage qu'on va avoir à remettre en place des valeurs qui sont essentielles et qui vont nous permettre de vivre mieux. C'est les valeurs de compassion, d'empathie, d'honnêteté, de bienveillance, de gentillesse. C'est peut-être un peu nunuche. Et je me souviens que Libération s'était foutu de ma gueule. Mais j'aime penser que je suis un nunuche si je mets ces valeurs en avant.
Merci beaucoup, Yann Arthus-Bertrand, de nous avoir accueillis ici.
Merci à toi.
On quitte la Défense, mais le grand voyage francophone continue avec Dany Laferrière de l'Académie française qui va nous parler de l'exil depuis Montréal. Avant cela, voici un peu de soleil avec le Belge Roméo Elvis. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Lenita, Lenita, inévitable et vital.
Je pensais toujours au PES que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, mais je suis trop bien avec toi. Avec toi, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Je suis un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde tout droit. Une pour elle, une pour lui, une pour moi. Et oh, comme ça, regarde tout.
C'était Roméo Elvis avec Soleil.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Il est notre chroniqueur de luxe, mais aussi et surtout auteur et membre de l'Académie française. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Comment allez-vous? Où êtes-vous en ce moment, Dany?
Ben, je suis à Montréal, je suis chez moi en train de lire Tchekhov. C'est un cadeau qu'on m'avait fait depuis longtemps et que j'ai retrouvé. C'est plutôt son théâtre, dans le premier volume de la Pléiade.
D'accord.
Voilà, c'est le luxe.
Bon, vous avez publié juste avant le confinement mondial, L'exil vaut le voyage, aux éditions Grasset. C'est un livre dessiné comme Autoportrait de Paris avec chat, comme Vers d'autres rives, les précédents. Il est beaucoup question de l'Amérique, New York, Miami, où vous avez vécu, et Montréal, où vous vivez en partie. Vous dites à un moment le métissage et le ventre mou de l'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous?
Oh ben, c'est pas là qu'on peut rentrer, c'est-à-dire, j'aurais pu ajouter le ventre mou du monde. On est appelé à se mêler, à s'interpénétrer, à créer des mondes nouveaux, quoi.
Bon, vous ouvrez ce livre plein de dessins avec un hommage à Jean-Claude Charles, un écrivain haïtien qui connut un grand succès avec Manhattan Blues, encensé par la critique, porté au nu par Marguerite Duras. C'est lui qui a ouvert la voie, V-O-I-X et V-O-I-E, aux auteurs haïtiens, Dany Laferrière.
Disons aux contemporains,
ouais.
À moi d'abord, qu'il avait choisi comme, comme écrivain pilote, si l'on peut dire, mais la littérature haïtienne date de très longtemps et on a connu des écrivains d'importance même au début du XXe siècle. Et déjà, Depestre était bien
avant. René Depestre, oui.
Mais chez les contemporains, ceux qui ont une écriture un peu en télescopage rapide, vive, et là, oui, il a été capital.
Mais parce que vous dites lui devoir beaucoup quand même. Vous racontez qu'il avait un problème avec l'alcool, mais ce n'est jamais l'alcool le vrai problème. L'alcool cache toujours un problème plus grave.
L'identité, problème d'identité. Oui. J'en parle très peu d'ailleurs d'identité, je déteste ce mot et on le met à toutes les sauces, mais il y avait un problème comme ça. Il était peut-être allé trop loin, je crois, et dans, j'allais dire, dans son intégration et culturelle et française, germano-pratine, et pour être plus précis. Et à un moment donné, je pense qu'il avait brûlé les vaisseaux et qu'il se souvenait trop peu de ses origines.
Bon, l'étape la plus importante de votre exil, Daniela Ferrière, c'est probablement Montréal. Vous racontez votre départ précipité d'Haïti car vous étiez menacé de mort par le régime après l'assassinat de votre meilleur ami. Et vous arrivez dans une petite chambre avec vue sur le Mont-Royal et vous expliquez que c'est le sommet du confort pour vous car c'est une vie sans menace, sans risque en fait, pour votre propre vie.
Et avec un peu de solitude,
oui.
J'en avais besoin. J'avais besoin de cette entité pour pouvoir penser à ma vie, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir me souvenir des choses qui m'étaient arrivées dans ma vie précédente, c'est-à-dire ma vie en Haïti, toute cette cavalcade de la faim qui s'est terminée par la mort de mon ami, le journaliste Gassner Raymond. J'avais besoin de solitude. C'est un luxe. Et pouvoir être seul, parce que je venais d'une ville surpeuplée, disons Port-au-Prince, où personne ne pouvait avoir 5 minutes tout seul. Et je me suis retrouvé dans cette chambre, que je dis toujours crasseuse et lumineuse, mais cette chambre petite, cette chambre qui ne valait rien, eh bien pour moi c'était un château, j'allais dire,
oui.
Ce que Virginia Woolf appelle une chambre à soi.
Oui, c'est ça.
Et tout écrivain a besoin de cet espace.
Pourtant le climat est rude, la ville est grande, mais il y a une rue qui va changer votre regard sur Montréal. Cette rue, c'est la rue Saint-Denis. Faisons ce voyage avec vous, Dany. Racontez-nous ce que vous y avez vu, comme si vous étiez dans cette rue Saint-Denis en ce moment même. Vous pouvez faire cet exercice-là, cet exercice mental avec nous ?
Ah, la rue Saint-Denis, c'est ma rue. Je l'ai souvent écrit. C'est simplement,
oui.
si je commence vers le nord, je vais m'arrêter au 36-70 tout d'abord, et où se trouve encore la petite chambre où j'ai écrit « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ». Tout en face, il y a le restaurant Chérier. De ma fenêtre, je voyais d'ailleurs le restaurant Chérier, et mon rêve d'entrer dans le restaurant, d'être de l'autre côté, et non celui qui était en train de regarder les gens et mangeant ou buvant du vin.
Il est comment ce restaurant Chérier ? De quelle couleur ?
Ah, le restaurant Chérier, mais c'est exactement, il n'a pas de couleur. On dirait qu'il prend la forme de ce qu'il contient. Et que contient-il ? Eh bien, c'est de nombreux journalistes, des écrivains, des essayistes. À cette époque-là, et toute la faune de Radio-Canada, la radio et télévision de Montréal, et s'y retrouvait.
Ah, oui.
Donc, si un jeune écrivain, quelqu'un qui voudrait bien se lancer dans ce métier, il rentrait dans ce restaurant. Et juste plutôt en diagonale se trouve le Carré Saint-Louis, que j'ai décrit dans « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer », mon premier roman, et qui est un petit parc de rien du tout. Il y avait du sable à l'époque, à la place du gazon qu'il aurait dû avoir, et beaucoup de bohémiens, de jeunes prostituées, de drogués. Mais c'est l'endroit que j'ai préféré parce qu'il y avait quelque chose comme une vie, quelque chose d'intense qui se passait dans ce parc.
D'accord.
Mais si on y va en zigzag, on traverse encore le trottoir.
On va pas faire toute la rue, Dany, parce qu'elle est très longue, hein, la rue Saint-Denis.
Oui, non, je sais. C'était un endroit à y arriver, puisque c'est la librairie du Square où j'ai eu la grande joie de voir mon roman prendre toute la vitrine de la librairie. Intrigué, je suis rentré pour parler à la libraire.
Oui.
Elle m'a dit, nous venons d'ouvrir cette librairie. Et le premier carton qu'on a reçu, et le seul, c'était vos livres. Alors, il n'y avait que vos livres. Et dans notre librairie, eh bien, on a tapissé toute la librairie avec vos livres. Donc, c'est une joie quand même.
Et on avait fait un reportage, d'ailleurs, ensemble, dans cette librairie. On avait retrouvé la libraire et on s'était retrouvé devant le Carré Saint-Louis. Bon, trois libraires ont lu votre roman, Dany Laferrière, La Suisse, la Belgique et le Canada. On va commencer par Katia Courteau, qui est au Canada. Katia, c'est à vous.
Quel magnifique exil vous m'avez permis, Dany Laferrière, riche et passionnant. On y retrouve avec grand plaisir votre verve, votre esprit et le son de votre voix, car c'est aussi de votre histoire qu'il est question. J'ai aimé ce regard multiple que vous portez sur l'exil, et même si je vous en veux un peu de m'avoir parfois écorché les yeux à lire votre calligraphie, je ne vous en tiens pas rigueur, l'objet est de toute beauté.
Encore la calligraphie. Mais je suis très content que ce livre ait pu plaire à une libraire, et même moi je pense avoir vraiment fait attention à l'écriture. Je crois que c'est pas la difficulté, je le dit encore, la difficulté ne vient pas de l'écriture, ça vient de... On a perdu l'habitude, tout simplement, de lire quelque chose de manuscrit.
Eh oui,
je me souviens d'une époque où l'on s'excusait quand on tapait quelque chose à la machine en disant « Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de vous écrire à la main. Cette époque semble révolue. Eh bien, moi, je tente de la remettre en circulation. »
Bon, Nathalie Clairin, pour la Belgique, vous êtes fascinée par ce livre, je crois, Nathalie.
Ah oui, absolument, Emmanuel. Moi, j'ai savouré cet ouvrage. Dany Laferrière, j'ai vraiment beaucoup aimé votre ouvrage. C'est 400 pages qui seront le livre de mon, je vais dire, premier confinement, à plein d'égards. J'ai tout d'abord adoré entrer dans la vie concrète d'innombrables auteurs, d'Ovid à Jean-Claude Charles, en passant par Borges, Graham Greene. Et vos dessins colorés, entre Dufy et Cocteau pour leur style, sont tout simplement la vie. L'écriture, elle est nuancée, elle est drôle, elle vient des tripes de quelqu'un qui se réinvente sans cesse et qui, même si parfois il est longtemps seul entre quatre murs, je vais dire, il est tout sauf confiné.
Mais merci, merci. Mais qu'est-ce que je peux dire à cela? C'est une grande joie pour tout écrivain d'avoir travaillé longuement et sur un livre, et de s'entendre dire des choses comme ça.
Bon, Dominique Bressot, pour la Suisse, êtes-vous d'accord avec vos collègues?
Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'on pourrait imaginer qu'au troisième livre, écrit à la main et abondamment illustré de Dany Laferrière, on commence à s'habituer. Eh ben non, parce que c'est toujours une surprise à chaque page. Les dessins sont splendides, très bien insérés dans le texte. Et là, la promenade en compagnie de Dany Laferrière aux côtés d'exilés célèbres est intrigante à certains moments et passionnante à d'autres. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'était des commentaires inattendus comme oubliés au milieu du texte. En fait, c'est idéal pour cette période.
Voilà, vous avez fait l'unanimité, Dany.
Ben, j'ai fait l'unanimité et je suis très heureux pour ce livre parce que j'ai mis beaucoup d'intensité. J'ai beaucoup cru. C'est un titre que je porte depuis très longtemps en moi. L'exil vaut le voyage. J'avais pensé que c'était un bon titre. Je l'ai gardé jusqu'au moment où je pouvais faire un livre à la hauteur du titre.
Alors c'est vrai que 400 pages. Hein. J'étais un peu comme certains libraires parce que j'avoue que moi aussi, je me suis dit un troisième vraiment, 400 pages en plus. Et en fait, très vite, on tombe dedans comme Obélix dans la marmite et on n'arrive plus à le lâcher, votre livre. C'est hypnotisant. Vous y avez mis un peu de vaudou, non, dans cet ouvrage?
Non, j'ai mis surtout de la passion. Je voulais que chaque page soit une page qui reste. Et je n'ai pas ménagé mes efforts. Dans le sens que si vous regardez ce livre, vous verrez que quand je fais des dessins minuscules, des petites choses, il n'y a pas un moment où j'ai fait n'importe quoi pour passer à la page suivante. Jamais j'ai ménagé. Ouais. Et mon effort, parce que ma joie était aussi dans l'idée de faire ce livre.
Vous critiquez aussi dans cet ouvrage cette époque où les auteurs rêvent de devenir célèbres et de gloire médiatique avant même d'avoir terminé un premier roman.
Ah mais oui, c'est une folie. C'est une folie. L'idée d'écrire vient en deuxième lieu. Il faut dire aussi que on chante la gloire avec une telle vitesse aussi de l'autre côté. Et je ne parle pas pour vous, mais je parle pour beaucoup. Pas seulement des journalistes, c'est surtout plutôt sur Internet. On arrive à la gloire trop rapidement et on perd de plus en plus l'idée de l'œuvre.
Pour terminer rapidement, l'écriture est aussi sexuelle pour vous, Dany Laferrière, comme la saison d'été qui libère les corps et donc la sexualité. Vous l'évoquez plusieurs fois dans cet ouvrage. La sexualité liée à l'écriture.
Oui, bien sûr.
Vous vivez ça tout le temps?
Bien sûr, c'est un orgasme. Parfois aussi, c'est l'impuissance. Et on n'y arrive pas et on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui a détraqué dans la machine ou qu'est-ce qui a fait détraquer la machine. Et on est là, penaud. Et puis d'autres fois, je ne sais pas, on voit une page et on enlève un mot, on le remplace par un autre. Et là, vraiment, et c'est une pluie de confetti. C'est comme si la page était en train de nous applaudir.
Bon voilà, ce livre atypique comme d'habitude avec ces livres dessinés de Dany Laferrière, ces exils aussi avec ces auteurs dont parlaient les libraires qui sont racontés avec beaucoup de verve, beaucoup d'esprit et d'humour. Et puis à la fin de votre livre, un bel hommage à votre maman qui elle aussi s'est exilée en quittant ce monde il y a presque 2 ans maintenant. Merci beaucoup Dany Laferrière.
Merci.
Merci infiniment. L'exil vaut le voyage est paru chez Grasset. Faites attention à vous, Dany, à Montréal.
Oh ben, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce que...
Jusqu'à ce que...
Voilà.
D'accord, on a compris. Bon, restez avant le jusqu'à ce que, s'il vous plaît. Bon, merci Dany. Avant de rejoindre l'éditeur français Emmanuel Carcassonne et d'aller à Bruxelles chez un brasseur belge avec un grand chef cuisinier, voici une nouveauté musicale qui réunit les chanteuses Rosemary Stanley et Dom La Nena avec la reprise en français d'un tube brésilien des années 80 chanté à l'origine pour les enfants par Nazaré Pereira. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
C'était le groupe Birds on a Wire avec Rosemary Stanley et Dom La Nena pour La Marelle dans la librairie francophone. Chaque semaine, nous donnons la parole à un éditeur. La librairie francophone renoue le lien avec la chaîne du livre, les libraires, les lecteurs, les auteurs et donc les éditeurs. Bonjour Manuel Carcassonne.
Bonjour à vous.
Vous êtes directeur général des éditions Stock. Comment travaillez-vous en ce moment? Comment ça se passe pour vous?
Oh, écoutez, travailler, c'est un bien grand mot. Je dirais que cette période du confinement est certainement propice à la lecture. Pour travailler, c'est quand même pas tout à fait ça, parce qu'on attend la réouverture des librairies qui, normalement, je l'espère, aura lieu autour du 11 mai. Et avec la réouverture des librairies, le véritable recommencement de la possibilité de faire lire aux gens des nouveautés, de les commercer, de les envoyer vers la librairie, alors qu'aujourd'hui, tout est suspendu. C'est un drôle de temps suspendu.
Oui, c'est ça. Tout est lié, et tout est lié aux libraires, effectivement. Il est de plus en plus question d'avoir une rentrée littéraire de septembre différente, avec des livres qui devaient sortir en ce printemps et qui seront repoussés à la rentrée. Et effet domino, cela va décaler des livres prévus à cette date. Ce sont les auteurs qui vont être les grands perdants au final, Manuel Carcassonne.
On fait tout pour que ce ne soit pas le cas, ça c'est évident. Très concrètement, ce que beaucoup de mes confrères, éditeurs et moi, on a fait, par exemple chez Stock, avant l'été, on a reporté plus de 50% du programme. Mais on ne l'a pas reporté à l'automne, parce que si on le reporte à l'automne, à ce moment-là, vous créez une situation évidemment d'embouteillage total, c'est-à-dire que vous avez déjà la production prévue, plus que vous deviez publier avant l'été, donc c'est impossible. Donc, ce qui s'est passé chez la plupart des éditeurs, c'est qu'en fait, qu'on reporte sur 2021, et parfois même jusqu'à 2022, ça dépend des maisons. Moi, je n'ai pas, j'ai énormément reporté de livres avant l'été, et pour l'instant, j'ai conservé la rentrée littéraire intacte. Pourquoi ? D'abord, tout simplement parce que je la trouve très bonne et que je ne vois pas pourquoi j'enlèverais telle ou telle brique d'un édifice qui est un tout, mais aussi parce qu'elle n'était pas très, très grosse déjà, donc je ne surabonde pas. Et la rentrée littéraire, c'est un marqueur quand même de la reprise d'activité en août-septembre des libraires, des auteurs et de ce qu'on appelle le début de la rentrée littéraire et qui court en fait jusqu'au prix. C'est-à-dire jusqu'au mois de novembre.
Bon, on vous a demandé de choisir un roman incontournable pour vous, qui est au catalogue de Stock. Lequel conseillez-vous de lire ou de relire en ce moment, Manuel Carcassonne ?
Écoutez, comme Stock est une maison qui, dans sa collection bleue, finalement, a une trentaine d'années, cette collection, je dirais que nos écrivains contemporains sont déjà des classiques. J'ai pensé donc conseiller aux lecteurs et aux auditeurs, évidemment, Les âmes grises de Philippe Claudel. Philippe Claudel, c'est un écrivain français que vous connaissez bien, qui est d'ailleurs souvent, je crois, un invité de votre émission.
Oui.
Et c'est déjà un classique. Les âmes grises, ça a été un des grands succès de ces... disons 30 dernières années, avec le prix Renaudot, avec 500 000 exemplaires vendus en France. C'est un livre sur la guerre, c'est un livre sur l'âme humaine, à la fois effectivement classique de par son écriture, de par sa facture, et en même temps qui est profondément aussi une porte ouverte sur l'imaginaire. Mmh. Je pense qu'en ce moment, plus que jamais, on a besoin de s'évader.
Merci beaucoup, Manuel Carcassonne.
Merci à vous, et bonne lecture.
Merci. On salue Philippe Claudel aussi, qui sera ravi d'être considéré comme un classique déjà. Ça va lui faire plaisir.
C'est à la fois un compliment et un coup de vieux. C'est les deux en même temps.
C'est vrai. Bon, merci d'être intervenu à distance dans la librairie. Faites attention à vous, Manuel. À bientôt.
Merci, au revoir.
La librairie francophone. Une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Un autre voyage dans cette émission avec une escale à Bruxelles, dans une célèbre brasserie historique, en compagnie d'un grand chef étoilé. Bonjour Christophe Hardiquest.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, en pleine forme.
Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jean Van Roy.
Bonjour.
Alors on est chez vous ici, à la brasserie Cantillon. Racontez-nous l'histoire de ce lieu.
Alors l'histoire de ce lieu, c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de la famille Cantillon, l'histoire de ma famille, puisque c'est mon arrière-grand-père Paul Cantillon qui a fondé la brasserie ici en 1900. Et on y fait toujours une bière ancestrale avec une fermentation naturelle, comme on faisait la bière il y a quelques siècles d'ici. Et la bière telle qu'on la fait aujourd'hui est une des dernières au monde, si pas la dernière, qui est encore fabriquée comme ça.
Alors Christophe, vous avez 2 étoiles au Michelin pour votre restaurant Bonbon situé à Woluwe-Saint-Pierre, à 10 kilomètres d'ici environ. Et vous dites qu'il y a une mondialisation de la haute gastronomie. Et c'est ça que vous voulez changer. Vous voulez vous attacher aux produits du terroir, la gueuse notamment, mais pas seulement.
Bien sûr, je pense qu'un chef sensé aujourd'hui est conscient de plein de choses. Il est conscient d'abord de son identité, de l'écologie. Quand on a tout sous la main à côté de soi, pourquoi est-ce qu'on devrait faire venir du bœuf de Wagyu du Japon ? Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est d'être fier de mon territoire, surtout pour le consommateur qui voyage. Donc on reprend tous les produits de notre territoire que l'on élève au niveau de la haute gastronomie, pour plus d'identité.
Le waterzoi, par exemple, vous le faites à la sole au lieu du poulet. Le ceviche au lieu de faire cela avec du thon ou du lieu, vous le faites avec de la moule de Zélande. Exactement. Donc il y a une appropriation finalement des recettes traditionnelles, des recettes qui marchent, qui font plaisir au public, mais avec des produits belges.
Oui, et puis surtout, il y a une grande réflexion sur le choix des produits. J'ai même depuis peu engagé un chasseur de produits. Et notamment, on a fait une petite création avec Jean, et j'étais très fier de ça, ça m'a touché. Bon, on a inventé une bière, je suis parti d'une idée d'une macération, et Jean a amené son expertise et son savoir-faire. On a fait une bière à base de cardamome, qui peut se servir justement sur des poissons crus. Et je pense là au maquereau, je pense au chinchard, je pense à la moule. On l'a servi sur la ceviche de moule. C'est génial, ça a une aromatique citronnée avec la cardamome. On utilise une épice, mais on s'est amusé. Et Jean a dosé ça à merveille. On l'a appelé Initial Bibi. Voilà, de la chanson.
C'est pas mal.
De la chanson
de Bardot.
De Gainsbourg, voilà. Oui, de Bardot. Et on trouvait ça chouette. Et donc, cette bière, elle n'est pas commercialisée parce que ce n'était pas le but de la commercialiser, mais c'est surtout de s'amuser. Et c'est un produit que maintenant tout le monde veut.
Il la montre parce qu'on est à un bar. Il faut savoir qu'il y a des barriques en bois. On est quasiment attablé finalement avec des verres autour de nous. Et elle est là-bas.
Ils sont
c'est
pas
ça.
Pleins, les verres. Ils sont pas pleins.
Non, ils sont pas pleins. On n'a pas encore bu. Christophe va la chercher. Alors, ah oui, Initial bébé. Voilà. Avec vos photos.
On a fait faire ça par un dessinateur. On trouvait que c'était...
C'est égocentrique, Christophe.
Pas du tout, mais la Belgique est un pays de dessinateurs. Mais
c'est vrai, c'est voilà, vrai.
On doit jouer l'identité jusqu'au bout du détail, etc. Donc on s'amuse beaucoup. Et je pense que la vérité, elle est dans ce qu'on vit et dans le plaisir qu'on prend à faire les choses.
On va visiter un petit peu avec vos gens. Il y a la chaîne d'embouteillage qui est juste derrière, quasiment manuelle. Tout est artisanal ici.
Le fait que des grands chefs comme Christophe s'intéresse à la bière aujourd'hui, pour nous, ça nous apporte une reconnaissance absolument immense. Et ça nous fait un plaisir fou.
On a plein de bouteilles là autour de nous, c'est très joli parce qu'on a des murs de bouteilles. C'est très bien organisé, très bien classé.
Comme nos bières mettent plusieurs mois, c'est une refermentation naturelle en bouteille, comme le champagne. Donc on appelle d'ailleurs la gueuse et les dérivés le champagne des Bruxellois. On a ici en permanence dans la brasserie approximativement 250 000 bouteilles.
Pour 250 000
250 000 bouteilles. Oui, on va dire entre 200 et 250 000 bouteilles.
Oui, mais tu n'en as jamais assez.
Voilà, et je dis que j'en ai jamais assez, effectivement. mais voilà, on a besoin d'une telle réserve, tout simplement parce que les bières doivent vieillir pendant des mois, voire parfois pendant plus d'un an.
Christophe Hardiquest, vous dites que les Belges ont une tradition culinaire très forte, mais qu'ils ne l'assument pas assez. Il faut que les Belges repensent finalement leur façon d'imaginer la cuisine. Des croquettes de crevettes, des moules frites, ça peut être un grand plat aussi.
Absolument. Aujourd'hui, nous, par exemple, on va aller cuisiner en Autriche pour Hangar 7. On a fait que du belge. Dès qu'on se déplace à l'étranger, on présente des recettes belges que l'on revisite et que l'on reconstruit avec une manière très moderniste. Chaque fois que je vois un collègue dans le monde, je prends de la gueuse dans mes valises et je ramène de la gueuse de la bébé ou de la gueuse de chez Jean ou des chocolats de mes collègues. Voilà. Ce qui m'importe, c'est que aujourd'hui, notre territoire soit reconnu au niveau mondial, au niveau qualitatif et surtout la fierté d'être ce que l'on est, c'est-à-dire un mélange. Nous sommes un mélange de différentes influences.
On va monter au bar, Jean.
Oui.
Parce que la relation avec le client, c'est très important chez vous deux. Car quand on arrive dans votre établissement, on est un peu chez vous. Et Christophe, vous habitez carrément dans votre restaurant. On va aller au bar. Alors, c'est par où? C'est par là. Hop.
Voilà. Voilà. Donc ici, on arrive au bar. Effectivement, la relation avec le client est très importante. C'est ça qui a sauvé la brasserie Cantillon. C'est justement le fait d'ouvrir les portes, de laisser les gens venir à la brasserie. Effectivement, la brasserie est aujourd'hui un musée, comme je l'ai expliqué, qu'on a ouvert en 78, qui est un succès fou, voire même un peu trop. On est parfois un petit peu débordé.
Oui, je vous ai vu râler tout à l'heure.
On a quand même plus de 40 000 visiteurs par an. Mais voilà, ça fait partie du job, quoi.
Je pense que les gens reviennent très fort à des vraies valeurs. On veut du concret. Et ce qui me plaît dans le travail de Jean aussi, c'est pas en dehors de son produit, c'est l'homme, c'est l'esprit de famille qu'il y a ici. Voilà, pour moi, c'est important tout ça aujourd'hui dans une société qui va toujours de plus en plus vite, où on demande de la rentabilité, etc. Je pense fondamentalement qu'il faut être d'abord idéaliste dans la vie pour un jour vraiment avoir de la sérénité dans les affaires.
Bon, merci beaucoup,
avec
Christophe.
Plaisir, avec
merci
plaisir.
Merci. Félicitations. Vous êtes l'un des plus grands chefs au monde et vous nous avez rejoints ici à Bruxelles dans la Brasserie Quotidien. Mais si, c'est vrai, vous êtes classé dans les 100 meilleurs. Ne soyez pas modeste.
Toujours là, ouais. Le belge est très modeste.
Il est modeste et c'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait sa force.
Merci, Jean Van Roy, de nous avoir accueillis ici.
Tout le plaisir était pour moi. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.
Et on quitte Bruxelles pour la chronique des libraires avec les coups de gueule et les coups de cœur pour conclure. Et un coup de gueule au Canada, Katia Courteau.
Alors oui, un coup de gueule, mais un coup de gueule qui vient vraiment du cœur. Alors comme on disait un peu plus tôt, au Québec, depuis plus d'un mois, les librairies sont fermées au public. Nous avons dû nous adapter pour pouvoir répondre aux commandes en ligne qui ont explosé via le site Les Libraires. Et on vous remercie pour cet élan soutenu envers vos librairies indépendantes. Mais on va se dire les vraies affaires. Le travail des libraires, c'est de vous conseiller les yeux dans les yeux. Vous n'avez pas idée à quel point vous nous manquez. Rien n'a d'égal votre présence et nos échanges. Alors on se dit à bientôt.
À très bientôt, effectivement. N'oubliez pas vos libraires quand vous sortirez du confinement. C'est très important. Ce sera l'un des actes de solidarité aussi. Dominique Bressot pour la Suisse, un coup de cœur, je crois.
Oui, alors moi, c'est pour les éditeurs qui ont la bonne idée de mettre en ligne, chapitre après chapitre, des livres à dévorer en temps de confinement. Alors, si vous n'avez pas Facebook, c'est le moment de prendre un compte. Moi, je citerai les éditions Okama, qu'on commençait à mettre en ligne Léa, un livre collectif pour ados et adultes, dont le premier chapitre écrit par Catherine Roland donne déjà une furieuse envie de tourner les pages pour de vrai. Ou alors le polar de Nicolas Feutz, notre fameux procureur neuchâtelois, justement titré « Restez chez vous ».
Ce sont juste les premières pages pour acheter le livre ensuite, on est d'accord. Hein, c'est pas une incitation à lire sur tablette.
Non, non, pas du tout. Pas venant
d'accord.
De moi, non.
Alors tout va bien. Bon, Nathalie Clairin, un coup de gueule de circonstance, vous aussi, en Belgique, Nathalie.
Oui, un coup de gueule à l'impatience, Emmanuel. Donc, suivi directement d'un souhait, cher lecteur. Alors, je m'explique, j'ai entendu beaucoup, beaucoup l'éloge d'une librairie réelle, de taille, je vais dire, humaine, où flâner, chercher, apprécier les sélections, recevoir des conseils, vous vous souvenez. Eh bien, ça va être le moment, cher lecteur, de la soutenir, si vous y tenez. Si un délai de commande est trop long par rapport à une plateforme en ligne, mais réfléchissons dans la mesure du possible, si ça ne vaut pas la peine de faire appel à cette vertu qu'on sollicite beaucoup en ces temps spéciaux et qui s'appelle notre patience.
La patience, la vertu. Pas toujours facile la patience, surtout en ce moment. On termine avec un coup de cœur, Thomas Auxerre pour la France.
Eh bien oui, un gros coup de cœur pour Sacrée Sorcière. Alors à la base, c'est un texte de Roald Dahl qui est adapté en bande dessinée par Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Alors imaginez un petit peu, Emmanuel, qu'un jeune garçon découvre que des sorcières projettent de faire disparaître tous les enfants. Alors, il y a vraiment de quoi s'inquiéter, eh oui. Mais avec l'aide de sa mamie, notre héros va devoir être sacrément rusé pour sauver tout le monde. Alors là, personnellement, je trouve que Pénélope Bagieux a vraiment sorti le grand jeu. Tout est réussi. Les dessins très jolis, l'humour décalé et le ton enjoué rendent vraiment hommage à cette histoire de fou. C'est lisible à partir de 8-9 ans. Mais alors franchement, moi qui suis un petit peu plus vieux, je me suis régalé.
Pénélope Bagieux, effectivement, qui fait beaucoup parler d'elle. Depuis l'été dernier, elle avait été consacrée aux États-Unis avec un prix prestigieux et elle revient avec ce livre. Merci beaucoup Thomas, c'est aux éditions Gallimard donc. Avis aux éditeurs, l'Organisation internationale de la francophonie a lancé les inscriptions pour son prix des 5 continents. Les livres éligibles doivent avoir été publiés entre le 1er mars 2019 et le 1er mai 2020. Les éditeurs ont jusqu'au 31 mai pour déposer 3 romans maximum qui entreront en lice pour ce prix des 5 continents. Merci à tous les libraires. Au revoir à tous.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Emmanuel.
À très bientôt. Bonne semaine à vous. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Juliette Delpeyrou. En ces temps difficiles, il y a aussi de bonnes nouvelles avec la naissance dans notre équipe d'un bébé librairie francophone. Bienvenue à la petite Léane Véret que j'embrasse tendrement. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, le papa, avec Stéphanie Valois et Christophe Magère en France et l'implication de la direction de France Inter. Jean-Marie Félix en Suisse pour la RTS, René Mikkels en Belgique pour la RTBF, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin pour Radio-Canada. À la semaine prochaine pour un nouveau grand voyage francophone et des invités toujours confinés à travers le monde. Merci de nous être fidèles. Faites attention à vous surtout. Bon week-end.